Bonjour à toutes et à tous. C'est avec joie que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, c'est Pentecôte. Nous sommes à 50 jours de Pâques. Et à Pâques, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a le Fils de Dieu qui est mort pour chacun de nous. Il est ressuscité. Il est monté. Et aujourd'hui, nous pouvons, comme il a dit à la croix, tout est accompli. Et quand tout est accompli, on doit maintenant rentrer dans ce qui est accompli, c'est-à-dire prendre possession de ce qu'il nous a donné et puis marcher dans ce qu'il nous a donné. Jésus nous a donné tout. Quand on dit tout, tout c'est tout. Il n'y a pas une petite partie, une moitié, tout c'est tout. Mais est-ce que tout est vraiment tout pour chacun de nous? Là est la question. Mais je crois que nous savons que tout est tout. Pentecôte fait partie, au temps de Moïse, des trois fêtes juives les plus importantes. Il y avait la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, la fête des tabernacles. Et Jésus, Dieu expressement, a fait coïncider Pâques avec la mort et la résurrection de Jésus. Et comme tout est accompli, il va petit à petit imposer une nouvelle marque sur les fêtes juives. Et nous allons voir ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y avait Dieu, je suis tellement impressionné par ce qu'il fait. Tous les Juifs se rendent à Jérusalem pour cette fête-là. Et le jour de la Pentecôte, expressément, Dieu fait deux groupes. Le premier groupe, ce sont les disciples de Jésus qui étaient dans la chambre haute. Il est écrit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et au verset 5 de Acte 2, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Dieu décide de séparer les Juifs en deux groupes. Pour une fête qui intéresse tous les Juifs, lui décide délibérément de faire deux groupes. Le groupe de ceux qui ont marché avec Jésus et le club des religieux qui étaient attachés aussi à Dieu. On dit hommes pieux. Pourquoi il fait deux groupes? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 50 jours. Et on doit maintenant marcher dans ce qui s'est passé dans ce qui s'est passé il y a 50 jours. Donc, Dieu, c'est le deuxième groupe, le groupe des religieux, ils sont venus à Jérusalem avec leurs présents pour offrir leurs prémices. Ils étaient vraiment dans la joie. Et ce jour-là, Dieu va présenter les 120 premiers membres de son Église. Et il ne va pas le faire en silence. Dans la seconde diapo, il est écrit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les 120 furent tous remplis du Saint-Esprit. Y compris Marie, la maman de Jésus, qui avait aussi besoin du Saint-Esprit. Tous. a déjà prévenu que chacun de nous qui reçoit le Saint-Esprit, il y a quelque chose de spécifique qui se passe dans sa vie. Quelque chose de spécifique. Et il va le dire à l'un des grands docteurs d'Israël, qui s'appelle Nicodème. Et c'est dans Jean 3 que Jésus va dire exactement ce qui va se passer. Sur la diapo suivante. Les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Et Jésus dit à Nicodème, si un homme passe par ce processus-là, c'est-à-dire naît de nouveau, ou bien naît d'eau et d'esprit, c'est la même chose. Si quelqu'un passe par ce processus, il y a deux choses qui sont maintenant une évidence dans sa vie. La première chose, c'est que maintenant, il a accès au royaume de Dieu. Il voit. La deuxième chose, il entre. Donc, à Jérusalem, sur la base de ce que Jésus a dit, il y a un groupe qui était les religieux qui sont venus fêter, et le deuxième groupe qui physiquement était avec les gens, les 120, mais qui dorénavant sont maintenant citoyens d'un autre pays. Sont maintenant citoyens du royaume de Dieu. Mais ça ne se voit pas sur leur visage. On ne peut pas dire voici des citoyens du royaume. Pourtant, ils sont à Jérusalem, mais ils ont basculé dans un autre pays. Et c'est le cas de chacun de nous. Nous sommes physiquement à Châtres. Tout le monde nous voit, on connaît nos résidences, mais spirituellement, nous ne sommes pas de Châtres. Et tous nos raisonnements doivent maintenant s'aligner sur les raisonnements du royaume de Dieu. Et si on ne marche pas dans cette démarche, Châtres va nous angoisser. Champfol va nous angoisser. Jouy, Galadon, tous ces quartiers-là vont nous traumatiser. On est maintenant obligé de basculer dans la mentalité du royaume de Dieu. Les 120 qui étaient à Jérusalem n'étaient plus du monde. Et si on ne réfléchit pas dans le processus de Dieu, le monde dans lequel on est, qui est méchant, va nous créer des problèmes. Je suis heureux parce que je n'ai pas communiqué avec Lorenzo expressement, parce que je sais que le Saint-Esprit, il conduit toutes choses. Et quand j'ai écouté tous les chants qu'il a proposés, je suis vraiment rassuré parce que ça nous montre combien Dieu nous aime. Combien Dieu aime son Église. Et combien Dieu est un Père. C'est impressionnant. Donc, dans la préparation de ce message, je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de rentrer dans le groupe des 120 pour voir comment ils ont fonctionné. Et me projeter avec eux et puis réfléchir avec eux. Nous, on peut dire qu'on est à peu près aussi 120. Et on doit impacter Châtres, l'Eure-et-Loire, la région centre, toute la France. Ils avaient le même job. 50 jours en arrière, eux tous ont trahi leur maître. Ils n'avaient aucune compétence pour atteindre l'objectif. Et voilà qu'ils basculent dans le royaume de Dieu. Et ils doivent maintenant atteindre cet objectif-là. J'ai dit au Seigneur, tu connais la réalité de notre Église. Tu sais dans quel processus nous sommes. Comment chacun de nous peut s'impliquer pour que dans ce projet de gagner Châtres, on soit dans l'assurance et dans le repos. Alors, quand on voit les disciples de Jésus, aucun n'était mieux que chacun de nous ici. Aucun. Pierre, un des champions en incrédulité, Lévi, Matthieu, il faisait partie du groupe de ceux qui étaient les plus détestés en Israël. Judas, on ne peut pas le comparer à Stéphane. Voilà. Donc, imaginez tous ces gars-là, et Judas les a quittés après. Mais des gens qui ne méritaient même pas, qui étaient remplis de doutes, de tout ce qu'on peut imaginer. Et Dieu leur donne la responsabilité de gagner le monde et d'étendre l'évangile jusqu'à Châtres. Et ils ont atteint le but. Comment ils ont fait? L'une des choses les plus importantes, c'est qu'ils n'étaient pas agités. Et ce matin, nous allons parler de l'autre aspect du Saint-Esprit qu'on ne dit pas souvent. Le Saint-Esprit est un consolateur. Et si un chrétien n'est pas consolé, si un enfant n'est pas consolé, c'est la catastrophe. Il va renier son père matin, midi, soir. Il va dire que Dieu ne s'occupe pas de lui. Il va dire que Dieu ne veille pas sur lui. Parce que Dieu est loin de lui. Est-ce que nous sommes vraiment consolés dans notre marche avec Dieu? Voici des gens qui étaient agités, qui ont renié Jésus. Comment il va les consoler et comment il va les amener à atteindre cet objectif-là? Un homme qui n'est pas consolé, nous-mêmes, par rapport aux enfants, on est obligé, quand ils sont agités, de les calmer avant de leur parler. Comment Dieu sait que nous, le monde dans lequel nous sommes, le monde est agité et le monde nous influence? Si on reste dans cette influence, on ne peut pas atteindre l'objectif que Dieu nous a confié. Alors, il va poser des actes forts pour les encourager et pour nous aussi nous encourager. Et il va attaquer les endroits qui perturbent le plus les chrétiens. Et si ces endroits-là ne sont pas réglés dans ma vie, je vais faire 10 ans, je vais faire 20 ans dans l'église, je vais rester agité. Je vais même manifester des dons, mais si ce n'est pas réglé, je vais avoir des problèmes. Et l'une des choses importantes, je vais lire ce verset, mais vous allez voir qu'on ne peut pas dire ce verset-là en une phrase et penser que ça va rester dans la vie de quelqu'un. Il faut que la personne s'asseye pour qu'on lui explique. La première chose que Dieu fait dans la vie du chrétien, celui qui reçoit le Saint-Esprit, et c'est instantané, c'est pas comme on dit, ça va se faire dans un mois, dans deux, c'est immédiat. Mais je dois croire et je dois m'appuyer sur ce que Dieu a fait. La première chose que Dieu fait pour consoler le chrétien, pour consoler l'homme qui était agité, c'est ce qui va se passer sur la diapo suivante. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est maintenant citoyen d'un nouveau pays. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout. Si je ne crois pas à ça, je vais croire à quoi d'autre? Si ça, ce n'est pas une réalité dans ma vie, je vais traîner mon passé avec moi. Dieu dit c'est passé, c'est passé. Mais on ne peut pas dire ça en une phrase. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu vois, maintenant tu es chrétien, ton passé c'est passé. Ce n'est pas possible. Il faut que la personne s'asseye pour qu'on lui montre tous les contours de ce que ça veut dire. Et je sais que même quand je dis ça, il y a des gens qui se posent des questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi tout ça? Parce qu'on ne peut pas dire ça en une phrase. Mais le verset 17 n'a pas de sens sans le verset 18. Je ne peux pas dire les choses anciennes sont passées. Non, ça n'a pas de sens sans le verset 18. Le verset 18 nous dit que tout cela vient de nos activités dans l'église. Ça vient de nos prières. On n'a rien à faire dedans. Tout vient de Dieu, du début à la fin. L'homme n'a rien fait, c'est Dieu qui a tout fait. Mais on ne peut pas balancer ça au visage de quelqu'un pour dire, bon, tu vois, Dieu a tout fait, c'est fini. Il faut que la personne s'asseye pour qu'on lui dise que ça, si ce n'est pas une réalité dans ta vie, tu vas faire 5 ans, 10 ans dans l'église, ton passé va t'agiter. Parce que On a connu des difficultés. Pour certains, ils ont été bien éduqués. Mais même l'éducation encore influence. Il faut croire que notre passé ne nous influence plus. C'est pourquoi, expressément, il fait basculer le chrétien dans un nouveau pays où il est nouveau. Il n'a plus de passé. Mais si ça, ce n'est pas vrai, dans mon cœur, je vais être agité. Et des gens se posent des questions. Est-ce que c'est vrai? Dieu va mettre une deuxième couche pour nous rassurer. Parce qu'il sait que nos proches qui ne sont pas convertis vont nous dire, mais votre histoire de chrétienté là, est-ce que c'est vrai? Ils vont nous ramener dans notre passé. Le frère en Christ qui est assis sur notre droite ou sur notre gauche, qui est un bébé converti, il va dire, mais votre affaire là, moi je ne crois pas. Dieu met une deuxième couche pour nous rassurer. Et la deuxième couche, c'est dans Romains 8, verset 1. Parce qu'il sait que nos pensées vont nous dire que notre passé est encore derrière nous. Donc il dit qu'il n'y a aucune condamnation, aucune, pour ceux qui sont en Christ. Dieu garantit le chrétien qu'il peut, il ne le condamne plus. Si je ne crois pas en ça là, je vais croire en quoi? Si je pense que j'ai un Dieu méchant qui, pour une petite faute, est prêt à me jeter dans l'enfer, comment je vais venir m'asseoir à ses pieds et prier? Si ces vérités ne sont pas entrées, ne sont pas ancrées en moi, mais je vais être agité. Dieu ne me condamne plus. Et il va plus loin. Le diable ne peut pas te condamner. Pourquoi? Parce que quand tu fais une faute, Dieu te dit, humilie-toi, demande pardon. Pourquoi? Parce que tu as le plus puissant avocat qui s'appelle Jésus. Il dit, viens, dépose à ses pieds, plaide coupable. Plaide coupable, il reconnaît ta faute, plaide coupable. Et lui, tous les dossiers qu'il présente à Dieu, Dieu efface. Si ça, ce n'est pas une réalité dans ma vie, que je pense que mon péché me rattrape, je vais être agité. Mais il faut que je sois en Christ. Il faut que je sois dans la mentalité du royaume de Dieu. Si je suis dans la mentalité de chatte, de champ folle, de lucé, ça, ça ne peut pas marcher. Il faut que je bascule dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la vie du chrétien est dans le royaume de Dieu. C'est l'endroit le plus stable. Ceux qui ont appris un peu l'histoire, regardez tous les grands pays. La France, je prends l'exemple de la France. La France est aujourd'hui à la 5e République. C'est-à-dire que sa loi fondamentale a été touchée au moins 5 fois. Il y a eu des modifications, des amendements. Pourtant, c'est un pays puissant. Mais à un temps T, il y a des gens qui ont dit, bon, il y a quelque chose qu'il faut modifier pour adapter. Les gens ont touché, même les États-Unis, qui n'ont jamais touché leur constitution, l'ont amendé au moins 17 fois. Le royaume de Dieu a une constitution stable qui n'a jamais été touchée. Si je ne suis pas à l'aise dans le royaume de Dieu, je vais être agité dans le monde. C'est pourquoi Dieu lui-même, dans Éphésiens 4, va susciter des gens au sein de son assemblée qu'il va lui-même d'abord consoler pour que quand ce peuple qui est en face d'eux, qui est agité, ils vont eux aussi consoler, les amener à être matures. Parce que ce que Dieu a suscité, s'ils sont agités, ils vont agiter le peuple. Donc il les console pour que eux ils consolent les autres. Et quand on lit tout l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a suscité, il les a d'abord consolés. Troisième couche que Dieu met dans nos vies pour nous rassurer. Il dit, maintenant tu as un nouveau nom. de pécheur que tu étais, maintenant je te donne un nom nouveau, tu es juste. Est-ce qu'on peut croire ça? On pense à je suis un petit pécheur. Dieu dit maintenant tu es juste. Je te fais le don de ma justice. Et cette justification à toi secret. La paix. Tu commences à vivre ce qu'on appelle la paix. Il est écrit, l'œuvre de la justice sera la paix. Sera, pourquoi sera? Parce que c'était une promesse. Et quand Isaïe écrivait ça, c'était une promesse. Maintenant, l'œuvre de la justice est la paix. Parce que Christ est ressuscité. Maintenant, nous sommes justifiés. Et le bonus, c'est que le fruit de cette justice, c'est le repos. Tu commences à expérimenter ce qu'on appelle la tranquillité. Ça commence à être une réalité dans ta vie. Et le clou de tout ça, c'est la sécurité. Le complexe d'infériorité saute. Tu n'es plus complexé parce que tu es dans la sécurité de ton Père. Il n'y a plus de complexe. Ah oui, c'est-à-dire, je ne connais pas si, non, tu ne te regardes plus parce que Christ habite en toi. Il n'y a plus de complexe. Tu es totalement en sécurité. Et le complexe de supériorité aussi saute. Quand le complexe de supériorité saute, tu commences à être maintenant humble. Tu commences à apprendre à être enseigné par plus petit que toi. L'orgueil diminue. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu es maintenant équilibré. Plus de complexe d'infériorité, plus de complexe de supériorité. Et petit à petit, tu tends vers quelque chose. En français, il y a deux mots qui se ressemblent. Dans leur manifestation, on a tendance à les confondre. Le premier, c'est l'arrogance. Le deuxième, c'est l'assurance. Quand un arrogant parle, on a comme l'impression qu'il est trop sûr, mais c'est différent. Le Saint-Esprit produit maintenant en toi l'assurance. Et la finalité de cette sécurité, c'est l'assurance. C'est pourquoi les gens regardaient les disciples de Jésus. Ils disent, mais comment ces gens-là, les gens sans instruction, d'où leur vient cette assurance? Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous imaginez un gars comme Pierre, complexé? 50 jours en arrière, devant une petite fille, il a renié Jésus. Plus de 3000 personnes devant lui, il parle avec assurance. Ça vient d'où? Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, l'assurance que tu as dérange souvent certaines personnes. Ils pensent que tu fais exprès, ils pensent que tu es arrogant. Mais non, c'est une force que le Saint-Esprit te donne. Tu ne sais plus ce qui se passe. Les gens sont étonnés, mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui est en train d'agir. Et c'est ça, le Saint-Esprit. C'est la finalité de ça. Mais il dit quoi? La sécurité que le dimanche. Il y a plein de chrétiens qui cherchent leur sécurité seulement le dimanche à l'église. Ils viennent recharger leur batterie. Dieu dit pour toujours. Mais si on ne t'enseigne pas ça, tu vas penser que la seule sécurité, c'est quand tu vas retrouver tes frères. Prenons le cas des papas et des mamans de l'église. Vous avez donné une bonne éducation à vos enfants. Pour certains, ils sont à l'extérieur de la France. Ils sont dans d'autres villes à l'université. Est-ce que vous êtes en train de pleurer parce que vos enfants sont en insécurité? Non. Comment Dieu va maintenir ses enfants dans l'insécurité lundi, mardi, mercredi, et c'est que le dimanche qu'il va les rassembler pour qu'ils soient en sécurité? Voilà notre problème. Parce que la sécurité n'est pas une réalité dans nos vies. Si le pasteur ne nous visite pas, c'est une catastrophe. Si un ancien ne prie pas pour nous, pourquoi il n'a pas pensé à nous? Parce qu'on pense que nous sommes dans l'insécurité. l'œuvre de la justice de Dieu. Ça doit être une réalité dans la vie du chrétien. C'est indispensable. Sinon, il va rester toujours agité. Le juste a maintenant la stature de Christ. Il monte à une certaine maturité. Ici, on voit aussi la diapo suivante. On dit celui qui vient d'en haut. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Mais comme nous, maintenant, nous sommes nés d'en haut, on vient aussi comme Jésus en haut, d'en haut. On est maintenant au-dessus de tout. C'est pourquoi Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde. On est maintenant des citoyens qui sont au-dessus de tout. C'est pourquoi au verset 34, il dit, celui qui vit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Mais derrière ce verset est caché l'orgueil. Parce que Dieu t'amène à un niveau de connaissance. Si tu ne fais pas attention, tu peux basculer dans l'orgueil. Et ça, il faut que le juste soit conscient de ça. Et il faut qu'il soit conscient que malgré sa position de juste, et c'est là que Dieu maintenant nous interpelle, malgré notre position de juste, on doit toujours avoir en tête que nous habitons un monde, nous habitons Châtre, nous habitons Lucé, et que le monde est méchant. Quel que soit ce que tu vas faire, ne t'attends pas à ce que le monde te lance des fleurs. Le monde est méchant. Donc, Dieu te dit, étant juste, sois conscient que tu peux tomber. Parce que le monde peut te mettre dans une situation de faiblesse. Le juste tombe aussi. Donc, malgré le fait que tu viennes d'en haut, comme tu es dans un monde qui est agité, tu peux tomber. Mais est-ce que tu restes par terre? Toute la question est là. Pour que tu sois rassuré, Dieu te dit que même étant tombé, toi le juste, Dieu te relève. Pour ne pas que tu sois agité. Dieu est tout le temps là. Il est là pour te relever. Il est là pour te relever. Et Michée dit que même quand tu es tombé, Dieu... c'est ça, Michée 7. Même quand tu es tombé, quand tu as commis une faute, Dieu pardonne. Il pardonne tes iniquités et il oublie tes péchés. Dieu pardonne et il oublie pour ne même pas que tu sois agité. Il ne garde pas sa colère à toujours. Car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et il y a quelqu'un qui va découvrir ça, il s'appelle David. David, il n'y a pas un homme dans cette assemblée qui a péché que David. David a commis toutes sortes d'erreurs. Mais Dieu lui accordait toujours ses bénédictions. Pourquoi? Parce que David va découvrir le quatrième point qui doit rassurer le chrétien. Le psaume 5. David va découvrir que autour du juste, autour de l'homme justifié, Dieu met autour de lui comme un bouclier. Imaginez, comme un bouclier, la grâce de Dieu l'entoure. La grâce de Dieu entoure le juste. Donc, il est dans une forteresse. Dieu te met dans une situation où tu ne peux pas un seul instant douter et être agité. La grâce de Dieu t'entoure. Et ça doit être une réalité dans ta vie. Ça doit être une réalité. Et ça, c'est maintenant à titre individuel. Mais en tant qu'église, qu'est-ce que Dieu va faire? En tant qu'église, qu'est-ce que Dieu va faire? Maintenant que je ne suis pas agité, maintenant que je suis prêt à rentrer dans le mouvement pour aller de l'avant, Dieu nous met maintenant sur un chemin, sur une autoroute. Et il nous impose de ne pas dévier de cette autoroute-là. Celui qui dévie fragilise la famille, se fragilise lui-même. Tous les chrétiens sont obligés de marcher dans l'excellence. Dieu impose ça. Dieu ne veut pas de médiocre dans sa famille. Pourquoi? parce qu'il a mis en chacun une capacité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à Paul, montre-leur la voie de l'excellence. Il faut que chacun de nous marche dans cette voie. Celui qui dévie de cette voie, il se fragilise, il crée des problèmes à tout le monde. Et on doit, même si on ne veut pas, emprunter ce chemin. Pourquoi il faut emprunter ce chemin? La diapo suivante nous dit, 1 Corinthiens 13, verset 8. Sur ce chemin, Dieu n'a pas mis une éventualité d'échec. C'est pourquoi il dit de l'emprunter. Parce que lui-même, il a fait de telle manière qu'il n'y ait pas d'éventualité d'échec sur ce chemin. Cet amour-là ne périt pas. Cette voie n'échoue pas. Cette voie, quand tu l'empruntes, là où il y a des disputes, les disputes s'arrêtent. C'est la puissance de cette voie. Par moments, on court après les dons. Dieu dit les dons vont disparaître. On court après la connaissance. La connaissance va disparaître. Mais cette voie, si tu ne l'empruntes pas, quelqu'un d'autre va te manipuler. Et Dieu maintenant va te montrer tous les panneaux qui sont sur cette voie, sur cette autoroute. Voilà tous les panneaux qu'on a sur l'autoroute qu'on emprunte, l'autoroute de l'excellence. Et tout ça, Dieu a déversé ça en chacun de nous. Tout ça. Pour ne même pas qu'on échoue. Quelqu'un t'a fait mal, Dieu te dit, appuie-toi sur ça. Ne prie pas pour ça, manifeste ça. Dieu décrit lui-même son caractère. Il n'a pas dit le chrétien est patient. Il n'a pas dit le disciple de Jésus supporte tout. Il parle de lui-même. Il dit sois conscient que tu as ça et appuie-toi là-dessus pour avancer. Dieu décrit son propre caractère. C'est pourquoi quand les gens disent « Je vis l'enfer dans ma maison », ils ont totalement l'opposé de ça. Il n'y a plus de possibilité d'être patient. Il n'y a plus de possibilité de supporter son conjoint. Il n'y a plus de possibilité d'espérer en son conjoint. Pourquoi? Parce que ces ingrédients-là, on refuse de s'appuyer là-dessus. Et celui qui ne s'appuie pas là-dessus, il se fragilise, il fragilise tous les frères. Il va vouloir qu'on l'aide. Alors qu'il a le même potentiel que tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais voilà les petites choses que Dieu nous demande d'avoir en nous, de garder en nous, de prendre ça comme un socle pour ne pas tomber. L'amour de Dieu est répandu en nous et c'est tout ça. Alors, regarde. Regarde ta femme. Regarde comment ton caractère a pourri le cœur de ta femme. Regarde. Chacun de nous peut s'observer. Regarde comment ton mari est angoissé. Regarde. Parce que le caractère que tu as, tu ne veux pas que Dieu le transforme. Et si tu ne veux pas, quelqu'un d'autre va te manipuler et il va produire le contraire de ça. Donc on n'a même pas le choix. On est obligé de dire, Seigneur, je reconnais que mon caractère là ne m'arrange pas. Aujourd'hui je reconnais, je veux vraiment m'appuyer sur toi parce que je veux aussi être excellent. Chacun doit rentrer en lui-même et prendre ses responsabilités. C'est une affaire personnelle. Jésus n'a pas fait asseoir un couple pour régler ses problèmes. La Bible ne mentionne pas ça. Chacun doit prendre ses responsabilités et comprendre que la voie de l'excellence est pour tout le monde. Il doit l'emprunter. Il faut se ressaisir et comprendre que Dieu, quand il rentre quelque part, il guérit toutes les plaies. S'il y a des gens qui devaient être culpabilisés, c'est les Pierre, les Paul qui ont tué des gens, mais Dieu a tout effacé. Je vais revenir sur la première diapositive. Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus ont tous été remplis du Saint-Esprit. Maëlle, tu peux revenir sur la première diapositive, s'il te plaît. Merci. Comme nous, on a été remplis du Saint-Esprit, demandons au Seigneur de prendre toute la place dans nos vies. Soyons humbles et laissons le Seigneur nous façonner, nous transformer et nous amener à manifester le potentiel qu'il a mis en nous. Tout ça, on ne peut le vivre que par la foi. Jude 3 nous dit qu'on a déjà la foi. On ne prie pas pour la foi, on a déjà la foi. L'espérance, on l'a déjà. Dieu a mis les trois choses qui demeurent en nous. L'amour, la foi, l'espérance, il nous les a donné. Donc c'est à nous de prendre possession et puis marcher dans ça. Prenons nos responsabilités, laissons Dieu faire son œuvre dans nos vies. Il n'est pas venu nous compliquer la vie, il est venu nous amener à être participant de sa nature que personne ne connaît. Il faut dépendre de Dieu pour marcher dans l'excellence. C'est pourquoi il ne peut pas avoir dans l'église des gens médiocres. C'est impossible. C'est impossible qu'il y ait de la médiocrité dans l'église parce que l'amour que Dieu nous a donné, si on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour pouvoir consolider nos familles, qui va nous aider? Tu vas aller demander au pasteur. Le pasteur croit en ça. Toi, tu ne crois pas en ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je sais que Dieu nous aime. Nous allons baisser les yeux, baisser la tête et puis nous allons prier. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es venu nous aider. Tu es venu nous aider par ton esprit. Et tu as dit dans Philippiens 4, que Philippiens 2, 13 plutôt, que c'est toi qui produis tout en nous. C'est toi qui produis le vouloir et le faire. Père, c'est vrai que par moments nous l'avons négligé, mais aujourd'hui nous prenons conscience que sans toi, nous allons marcher dans les difficultés. Parce que ce monde dans lequel nous sommes est méchant. Ce monde ne fait pas cadeau. Père, nous voulons demeurer dans ton amour. Nous voulons que par l'amour que tu as répandu en nous, Seigneur, que les gens du dehors voient que nous t'appartenons. Merci vraiment pour la grâce que tu nous fais. Merci parce que tu ne nous condamnes pas, Seigneur. Tu as effacé notre passé et maintenant nous sommes affranchis. Nous sommes libres. Nous sommes pleinement, Seigneur, renouvelés en toi par la grâce que tu nous fais. Père, sois béni. Merci vraiment pour notre communauté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour nos responsables. Merci pour notre famille que nous constituons et pour laquelle nous savons que, Père, il n'y a aucune éventualité d'échec dans tout ce que tu nous confies comme responsabilité. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen.